Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
J'ai beaucoup de clients qui m'ont commandé plus que d'habitude pour m'aider à faire face, parce qu'on a eu, enfin, j'ai eu un gros problème financier, puisque forcément, on n'a pas eu un mois de décembre exceptionnel, on va dire, et on comptait vraiment sur Pâques pour se remettre des un peu manifestations sociales. Donc, ça a été très compliqué.
À Paris, la rue, c'est les commerçants. Mais confinement oblige, ils ont pour la plupart baissé le rideau. Plus ou moins longtemps selon l'activité et avec plus ou moins de conséquences sur leurs affaires. Pour les chocolatiers, hasard du calendrier, le virus a frappé à une période qui normalement est une fête pour eux.
À quelques jours de Pâques, le laboratoire de ce chocolatier devrait être en effervescence. Mais avec la crise du coronavirus, il est quasiment vide. La production a été réduite de 30% et une partie des salariés est en chômage partiel.
C'est bizarre, c'est pas Pâques.
Et oui. C'est pas Pâques. Il se vend en principe en France dans les 15 000 tonnes d'œufs, de cocottes et autres lapins à cette période. Mais 2020 est parti pour être une année noire pour les artisans du chocolat. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et on va aller cette semaine, au fil des rues et des métros déserts, à la rencontre des commerçants parisiens en mode confiné. Poussons les portes fermées pour qu'ils nous racontent leur traversée. Premier arrêt, l'Instant Cacao à Palais-Royal. Jolie devanture blanche, comptoir de vente à l'avant et machine à l'arrière qu'on aperçoit à travers une cloison vitrée. La boutique de Marc Chinchol a tout d'une grande chocolaterie dans des dimensions de poupée. Fondu de chocolat depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, cet artisan fait du bean to bar, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il travaille depuis la fève brute, qu'il torréfie, jusqu'à la tablette, qu'il emballe. Il met aussi un point d'honneur à se fournir en cacao cultivé sans pesticides et issu du commerce équitable. Un puriste, un passionné, qui a ouvert au cœur de ce haut lieu du tourisme chic, il y a moins de 2 ans, à 26 ans. Depuis, la mairie de Paris l'a récompensé du prix du goût d'entreprendre. Une trajectoire sans faille, jusqu'à ce 17 mars.
Dans quelques minutes, il sera midi. Et je l'ai annoncé hier soir, des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre.
Une fois la porte franchie, baigné dans les effluves de cacao, je lui ai demandé si, à quelques semaines de Pâques, il avait reçu l'annonce du confinement, comme on reçoit un coup de massue.
C'est pas que pour moi, c'est vraiment tous les chocolatiers. J'ai beaucoup de confrères, on s'est tous appelés entre nous et on a dit c'est une véritable catastrophe. Parce que Pâques, c'est un enjeu qui est très important déjà pour nous chocolatiers, parce qu'il nous permet de faire une trésorerie pour l'été à venir. Parce que généralement, l'été, on vend très très peu de chocolat. Donc c'est vraiment ce qui nous permet de tenir en été. Et là, cette année, bah, du coup, ça a été une véritable catastrophe, déjà sur le plan économique et même sur le plan social, relationnel. Pas que pour toutes les familles, c'est un rassemblement. La chasse aux œufs, bon, moi j'en ai d'excellents souvenirs, je soupçonne même que c'est ça qui m'a fait devenir chocolatier, parce que j'adorais tellement ça que bon. Et on se dit, c'est quand même triste que les familles n'aient pas pu se réunir, et que ben, nous, d'un côté, on n'a pas vraiment pu s'amuser à faire nos montages de Pâques. Que chaque chocolatier adore cette saison parce que c'est de la créativité, c'est vraiment le moment où on s'amuse le plus.
Vous aviez déjà des choses de prêtes ?
Alors Pâques se prépare toujours à l'avance, minimum un mois à l'avance, parce que les montages prennent beaucoup de temps. Pour ce qui est de la partie création, c'est quasiment 6 mois à l'avance. Bon, 6 mois à l'avance, on commence à réfléchir à Pâques, ce qu'on va faire, les nouveaux petits sujets qui vont arriver, le thème, on se donne souvent un thème en adéquation avec notre vitrine, pour un peu faire un petit spectacle, en fait, de Pâques.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, qu'est-ce que vous aviez de prêt et qu'est-ce que ça vous a obligé à mettre en place ?
Alors, j'avais quand même déjà toute ma petite production de Pâques. J'avais aussi mes productions périssables, Donc tout ce qui était périssable, j'ai dû le distribuer de mon cœur. De toute façon, je voulais pas jeter tout ça parce que c'est fait, on va dire, un peu avec amour ici. Donc ça fait toujours mal de voir des produits qui ne partent pas quand on a passé énormément de temps dessus. Du coup, j'ai arrêté la production aussi de tout ce qui est sans conservateur parce que je travaille sans conservateur. Donc forcément, 3 semaines, c'est la limite maximale. Donc comme le confinement, on est déjà quasiment à 2 mois, voilà, j'ai préféré arrêter tout ça. La seule chose que j'ai chiffrée, justement, parce que l'État nous aide quand même, les petites entreprises et tout, via les 1500 euros qu'ils distribuent vraiment aux entreprises qui sont en grande difficulté, qui a été un peu mon cas, parce que du coup, comme j'ai qu'un an et demi d'existence, j'ai pas une trésorerie très très solide. Donc j'ai préféré voir combien vraiment j'avais perdu pour faire appel à ces aides.
Est-ce que ça a été simple de faire appel à ces aides? Est-ce que vous vous êtes facilement retrouvé et est-ce que c'était satisfaisant pour vous?
Alors, pour les 1500 euros, ça a été assez rapide. Après, il y a le prêt garanti par l'État, où là, c'est toujours en attente auprès de ma banque. Donc voilà, j'attends de voir comment ça se passait, parce que forcément, j'aurais besoin de trésorerie pour l'été à venir.
Comment vous vous y êtes pris?
Mon expert comptable m'a dit d'aller sur le site impots.gouv, d'aller dans mon espace particulier et dans la messagerie. Quand on envoie un message, il y a justement demande d'aide aux entreprises pour faire face au Covid. Et il nous envoie un formulaire qu'on remplit assez rapidement. On compare notre chiffre d'affaires de l'an dernier par rapport à cette année. Et ça nous permet de voir déjà combien on a perdu. Et si on est à moins 50% et plus, d'obtenir une aide de 1500 euros. Après, on nous a aussi j'ai réussi à reporter mon loyer et mes échéances de prêt. Donc ça a été auprès de ma banque et du coup de mon bailleur. Et j'ai aussi du coup fait la demande de prêt garanti par l'État auprès de ma banque. Et là, la demande est toujours en cours de traitement.
Les 1500 euros que vous avez reçus vous ont permis, ça permet de tenir combien de temps en réalité?
Un tiers de mois. C'est assez dérisoire. Mais j'ai envie de dire, c'est bien mieux que rien. Parce que ça permet quand même de payer des choses qui continuent à courir. Donc on ne peut pas dire que ça a servi à rien, c'est pas possible. Ça m'a aidé à payer des choses que j'aurais jamais pu payer en temps normal, mais c'est sûr que par rapport à un mois de Pâques, on est censé faire une trésorerie sur 5 mois, ben là, on obtient l'aide pour tenir à un tiers, voire un quart de mois. Donc on a, on va dire, 4 mois et demi à tenir de trésorerie, de trouver comment faire de la trésorerie pour 4 mois et demi à tenir.
Le 17 mars, qu'est-ce qui se passe? Vous fermez la porte?
Alors, moi, j'ai fermé pendant 15 jours pour voir, déjà, bon, si j'avais été contaminé ou pas, par mesure de sécurité. Donc voilà, au bout de 15 jours, j'avais rien. J'ai repris le travail avec les mesures de sécurité, donc désinfection, lavage des mains toutes les heures. Donc voilà, j'ai été vraiment très rigoureux sur l'hygiène. Mais j'ai quand même laissé la boutique fermée. J'ai juste mis sur rendez-vous parce que j'ai une très petite boutique. Et du coup, c'est juste pas possible d'être à plusieurs dans une boutique aussi petite. Donc pour pouvoir respecter les normes, j'ai fait sur rendez-vous par appel téléphonique ou alors j'ai fait des livraisons par coursier sur Paris ou par transporteur pour province, banlieue. J'ai eu pas mal d'appels téléphoniques, justement, mais carnet client, on va dire que j'ai pas encore un carnet assez gros puisque j'ai toujours qu'un an et demi d'existence, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir pas mal de clients fidèles qui ont commandé, que j'ai pu livrer par transporteur sur Paris.
Ces 15 jours où c'était totalement fermé, est-ce que vous vous êtes dit c'est fichu?
Non, je reste optimiste parce que voilà, j'ai beaucoup de projets pour cette chocolaterie. C'est une très belle aventure parce que c'est une aventure humaine aussi, parce que je le dis à tous mes clients, je fais 50% du travail et mes producteurs font 50% de l'autre partie du travail. C'est-à-dire que s'ils ne me faisaient pas des fèves de cacao de qualité, on n'aurait pas un bon chocolat derrière. Donc voilà, je travaille un peu en adéquation avec mes producteurs, mes fournisseurs. Enfin, je dis mes producteurs, mais ils sont pas, voilà, ils sont indépendants. Hein. Mais je peux pas me permettre de dire, voilà, je ferme 2 semaines, c'est fini, j'y arriverai jamais. J'essaye vraiment de trouver des solutions, des nouveaux produits. Là, cet été, du coup, je vais essayer de faire des glaces pour un peu compenser la perte de chiffre qu'on a eu à Pâques, pour un peu survivre cet été. Généralement, les glaces, il y a beaucoup de chocolatiers qui en font pendant cette période creuse.
2 600 $ la tonne de cacao ou rien. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé mercredi qu'ils stopperaient leur vente de cacao si le prix à la tonne se situait en dessous de cette barre. Une décision historique présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs et de faire pression sur les grandes multinationales.
L'éthique et les revenus équitables dans la filière du cacao, c'est important pour vous?
Alors, mon chocolat, je le fais en respect avec la nature et en respect total avec les producteurs de cacao. Parce qu'il faut savoir que le travail du cacao, c'est un travail qui est très long, qui est très difficile. Tout est fait à la main. Du coup, il est normal que les producteurs soient bien rémunérés et qu'ils puissent vivre de leur passion. Parce qu'on est sur à peu près 3 mois de récolte, travail, empaquetage, séchage. Enfin, il y a vraiment un travail énorme sur les fèves. Il faut savoir qu'une fève de cacao, quand elle est travaillée l'année, on peut la travailler, nous, chocolatier, l'année suivante. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en 2019, on peut commencer à les travailler maintenant. Parce que le travail est tellement long, tout ce qui est logistique, parce que c'est quand même des produits qui viennent de l'autre bout du monde, hein, on est obligé de le dire, ça se cultive entre les tropiques. Et que ça vient souvent par cargo, donc par bateau. Donc on est obligé de prendre soin de ces producteurs pour qu'ils puissent continuer à nous fournir des fèves de qualité, qu'ils puissent vivre de leur métier, qu'ils puissent envoyer leurs enfants aux écoles, ou même leur faire reprendre le flambeau, parce que on a eu quand même des producteurs qui n'ont pas pu transmettre à leurs enfants parce que le travail était trop pénible et la rémunération n'était pas bonne. Donc forcément, les enfants, ils n'ont pas envie de faire ce que fait papa, et papa, il ne va pas leur dire « faites comme moi, galérez toute votre vie ». Du coup, c'est normal qu'on montre à ces familles que le travail du cacao, bien travaillé, nous permet de vivre, leur permet de vivre, et à long terme, parce que c'est quand même une plantation, ça reste des arbres. Chaque année, ça fera une ou deux récoltes, en fonction des variétés, parce que là, c'est pareil, on arrive dans un univers où on pourra en parler pendant des heures.
Comme elle a été mal coupée, cette cabosse va mourir. Elle va devenir toute noire. Elle est fichue.
Au moment de la récolte, toute la famille est mobilisée. Il faut dire que 80% de la production mondiale provient de petites exploitations familiales, trop modestes pour employer de nombreux saisonniers.
Le cacao, ce sont essentiellement des petites exploitations disséminées entre les deux tropiques du globe. La pandémie est mondiale et les mesures de confinement ont concerné à un moment donné, la moitié de la planète. Quelles ont été les conséquences pour vos producteurs ?
Je travaille avec beaucoup de producteurs. Il y en a, ils m'ont dit où en étaient. Il y en a pas mal qui sont en récolte, qui s'en sortent pas trop mal. Malgré un confinement, ils font quand même attention, parce que les arbres sont naturellement espacés. Donc, sur ce point, il n'y a pas trop de problèmes. Après, certains pays ont coupé l'apport en essence, donc tout ce qui est transport des fèves devient extrêmement compliqué. Mais généralement, les plantations avec qui je travaille, il y en a, ils sont encore à la récolte avec des chevaux, hein, où ils ramènent... Parce que les plantations sont vraiment dans des endroits escarpés où les véhicules ne peuvent pas arriver. Mais de ce que je sais pour le moment, ça se passe pas trop mal. La récolte n'est pas totalement fermée. Mais on n'est qu'au début. Donc voilà, j'essaye de voir au jour le jour aussi comment ça se passe de leur côté, s'ils s'en sortent, si ça va à niveau santé aussi. Donc voilà, là, personnellement, il faut voir ce que l'avenir nous réserve... À ce niveau-là.
Et vous, quelles difficultés avez-vous à gérer par rapport à la matière première ?
Alors, moi, c'est tout ce qui est transport. Hein. Là, on a des fèves qui sont bloquées, des transports qui sont grandement allongés. C'est difficile de se fournir auprès de transporteurs de fèves en ce moment. Parce que, justement, tout a été chamboulé par les confinements, les fermetures des frontières, etc. etc.
Vous avez donc des sacs de fèves bloqués ?
Oui, j'ai deux sacs en ce moment. Alors, comme je suis une petite boutique, j'ai deux petits sacs qui sont bloqués. Ça va bien finir par se débloquer, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais après, il y a les sacs de fèves, mais il y a aussi tout ce qui est emballage. Hein. J'ai des entreprises, des cartonneries et tout, qui sont totalement fermées, qui sont à l'arrêt. Et du coup, on peine à trouver des sacs pour les fournitures, des étuis pour les tablettes, des boîtes. Donc ça, par contre, on est sur nos stocks, mais dès qu'il n'y a plus de stocks, s'ils ne reprennent pas la production, on ne pourra plus vendre non plus, parce qu'on ne peut pas se permettre de vendre le produit comme ça. Hein. Alors, il faudra trouver des solutions assez vite.
A priori, vous avez de la matière première et du stock pour tenir combien de temps ?
Voilà, j'ai envie de vous dire, comme l'été est quand même très calme chez les chocolatiers, normalement, je devrais tenir cet été. Mais si au mois de septembre, ou là, août-septembre, tous les chocolatiers refont leur stock d'emballage, préparent tout pour Noël, là, ça va être très très compliqué si on ne peut pas refaire nos stocks pour le mois de décembre à venir.
Est-ce qu'il y a de la surenchère ? Est-ce qu'on vous propose plus cher des choses compte tenu de la situation ?
Oui, il y en a qui profitent un peu du fait qu'il y ait beaucoup plus de demandes que de stockage au final. Enfin, je sais qu'il y a, donc, pour certains produits, oui. On est sur une augmentation de plus 10, plus 15%. Voilà. Mais bon, ça, il fallait s'y attendre. Après, il faut savoir qu'il y a une pénibilité et il y a un danger aussi pour les livreurs, eux, qui ne s'arrêtent pas de travailler. Donc, c'est normal aussi, j'ai envie de dire, que certains augmentent un peu le tarif parce qu'il y en a qui commencent à prendre des risques. Ne serait-ce qu'en livraison, ils sont en contact des clients. Puis je pense qu'il y a énormément de livraisons puisque les gens ne se déplacent plus. Donc voilà, c'est logique qu'ils soient tous surbookés. Je sais que j'ai des livreurs qui se mettent à livrer justement des masques pour les hôpitaux et tout, qui sont réquisitionnés. Donc forcément, ils ont moins de gens pour livrer, donc forcément, il y a tout qui augmente un peu.
Vos clients, ce sont des habitants du quartier ?
Alors, j'ai une petite clientèle de quartier. Il faut savoir que ce quartier, c'est très touristique. Il y a beaucoup de bureaux. Du coup, là, on est un peu dans un désert en ce moment. C'est vraiment vide. La plupart de mes clients, en fait, qui travaillent dans les bureaux, ne sont pas dans le quartier. Donc, c'est pour ça que j'ai pu quand même vendre par coursier à mes clients. Mais sinon, ça fait vraiment bizarre. On entend presque les oiseaux chanter. Donc, voilà. Je pense qu'on reverra plus, j'espère, un Paris dans cet état-là. Parce que ça fait vraiment bizarre.
Ces premiers 15 jours que vous avez passés confinés, est-ce qu'ils ont été l'occasion de remettre à plat votre activité, d'inventer de nouvelles choses ?
J'avais plein de recettes avant le confinement, j'en ai encore plus maintenant, j'ai envie de dire. Donc, je cherche vraiment. J'aime tout ce qui est un peu folklorique aussi en goût. Hein. J'aime faire des mélanges audacieux, des nouveaux chocolats, des mélanges sucrés, des mélanges salés. Enfin voilà, on va dire que niveau créativité, je suis jamais à court d'idées. J'en ai quand même profité pour faire mon site internet marchand. Parce que bon, c'est très compliqué à mettre en place. Disons que je suis chocolatier, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai consacré pas mal de temps. C'est pas encore fini, mais ça m'a permis d'avancer ça. Parce que c'était prévu, j'étais censé le sortir justement dans ces eaux-là. Donc voilà, je continue d'avancer dessus aussi. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps justement de dégager. Ça m'a dégagé du temps en fait pour le faire. J'ai changé pas mal de choses et sur le site classique et du coup je suis en train de faire un site marchand sur lequel je pourrais vendre mes tablettes et autres produits.
Oui, donc ça a accéléré votre digitalisation d'une certaine façon.
Voilà, on va dire ça parce que forcément pendant les 15 jours où j'étais confiné, j'allais pas passer mon temps à tourner en rond dans mon petit appartement. Donc je me suis dit allez hop, je me lance. Des tutos sur internet, les meilleures plateformes pour héberger le site. Donc voilà, j'ai essayé d'éplucher les choses bien et faire les choses bien. Il faut voir le positif un peu partout. On va dire que c'est très compliqué, mais c'est aussi très compliqué pour tout le monde. Donc il ne faut pas se dire que c'est la fin, etc. Il faut essayer de se dire qu'est-ce qu'on va faire après, comment on va rebondir. Parce que si jamais on est tous abattus et tout, là oui, c'est sûr que tout est terminé. Hein. Donc il faut se dire que on peut le faire. Il faut trouver des nouveaux moyens de distribution, des nouveaux moyens de production, des nouveaux moyens sanitaires. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Donc, on va dire que le temps qu'on a est limite insuffisant. Donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de remises en question. Et en fait, j'ai beaucoup trop de choses en tête pour me dire, j'arrête tout maintenant. C'est pas possible. Là, justement, je suis, comme je disais, je vais refaire des glaces. J'en ai déjà fait dans mes anciens emplois. Là, c'est un peu aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, quelle recette je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça va être un peu des glaces aussi à mon goût. Donc, je vais quand même essayer de trouver une solution écologique pour tout ce qui est transport de la glace, c'est-à-dire des pots en carton, cuillères en bois. Il faut que je cherche vraiment comment conditionner la glace. Je n'ai pas une seconde à perdre, à me dire, est-ce que je vais fermer? Est-ce que je vais ouvrir? Non, pour moi, je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer de travailler dès que ça sera un peu décanté. Mais pas une seconde, je me dis, je vais fermer, j'arrête tout. Quoi.
Du coup, ce que vous produisez en ce moment, c'est différent d'avant ?
Alors, j'ai arrêté la production de tout ce qui est produit sans conservateur. Tout ce qui est tablettes, elles sont plus sympas et durent quand même beaucoup plus longtemps. Conserver dans une bonne condition, une tablette, ça se conserve 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais dans une top condition. Donc ça va, je peux continuer à les produire. Mais c'est tout. Après, j'avoue que je passe mon temps aussi à faire des nouveaux tests pour les nouvelles variétés de tablettes que je vais sortir, les nouveaux types de fèves et d'autres petites expérimentations de cacao, parce que voilà, j'arrête jamais d'expérimenter pour faire toujours des tablettes à mon goût et top qualité.
Et en tant que chocolatier, vous avez l'impression de vendre un petit peu de bien-être à vos clients ?
On se rend compte que le chocolat, c'est bien une drogue. Quand on n'en a plus, on en veut plus. Disons qu'un client, quand il m'appelle, il ne va pas me dire « je veux du chocolat ». Il me dit tout de suite « je suis en manque ». J'en ai pas un qui a dit « j'ai besoin de chocolat » ou « j'aimerais vous acheter du chocolat ». C'est « je suis en manque, il faut que je me ravitaille vite ». Voilà, c'est les mots d'ordre. Donc voilà, généralement, je leur prépare leur paquet, je leur expédie, ou alors ils viennent en retirer en boutique directement. Mais on parle plus de manque que de besoin. Enfin, c'est assez marrant.
Merci Marc Chinchol de l'Instant Cacao, chez qui il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour voyager. La bonne odeur de chocolat et la passion de l'artisan suffisent à vous transporter. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est terminé pour aujourd'hui. La série se poursuit demain chez un autre commerçant, dans un autre quartier. J'espère que vous nous suivrez. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. L'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.